Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir et bonne année 2022. Merci d'être avec nous en ce samedi 1er janvier 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La diplomatie iranienne a réitéré le droit inaliénable de la nation iranienne de bénéficier du progrès scientifique. En Irak, l'ambassade américaine à Bagdad a été mise en état d'alerte. Un convoi logistique de l'armée US a été visé à Zirar et des bases américaines ont été aussi attaquées en Syrie et au Soudan. 4 morts et des centaines de blessés dans des manifestations de masse, selon les rapports de la police. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a condamné les propos de la Maison-Blanche, soulignant que les progrès de la science et de la recherche, y compris dans le domaine de l'aérospatiale, sont le droit inaliénable de la nation iranienne et que de telles déclarations indiscrètes ne briseraient pas la détermination des Iraniens à progresser dans ce domaine. Le ministère iranien de la Défense a annoncé jeudi 30 décembre que la fusée porteuse de satellites de construction nationale SIMOR a lancé avec succès 3 dispositifs de recherche dans une mission de recherche spatiale qui a marqué une autre réalisation pour le programme spatial civil de l'Iran. Plus tard jeudi, le département d'État américain a déclaré que Washington reste préoccupé par le développement par l'Iran de lanceurs spatiaux. Il a également affirmé que de tels lancements de satellites violeraient une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant la République islamique d'Iran à se tenir à l'écart de toute activité liée aux missiles balistiques capables de transporter des ogives nucléaires. Vendredi, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a condamné les propos de la Maison-Blanche. Aucune résolution n'empêche la République islamique d'Iran de poursuivre son programme spatial et les expériences associées, y compris dans le domaine des portes satellites. Ainsi, citer la résolution 2231 du Conseil de sécurité est purement fallacieux et fondamentalement faux, a-t-il souligné. Comme indiqué précédemment, la République islamique d'Iran a le droit d'utiliser des technologies pacifiques dans le cadre du développement de sa recherche scientifique conformément aux normes internationales et ce faisant, elle n'attendra pas l'opinion de certains pays qui cherchent à imposer leur dictat. Ajouté M. Khatibzadeh rendant hommage aux jeunes scientifiques iraniens pour leurs réalisations remarquables dans le domaine de l'aérospatiale, malgré les sanctions illégales et injustes imposées par les États-Unis à l'Iran. L'ambassade américaine dans la capitale irakienne Bagdad est en état d'alerte. Le site d'information Achar a fait part de l'activation du système de défense aérienne de l'ambassade américaine à Bagdad. Les forces de sécurité irakiennes ont également largement investi l'ambassade US à Bagdad. Simultanément, un groupe de manifestants ont mis le feu à une maquette de l'ambassade américaine à Bagdad. Les protestataires qui portaient des drapeaux irakiens se sont rassemblés dans la zone verte de Bagdad, fortement gardée. Le rassemblement marque le deuxième anniversaire de l'incendie d'un poste de contrôle de l'ambassade US par des manifestants irakiens après une frappe aérienne américaine sur les positions des forces armées des unités de mobilisation populaire à Ashtal-Shaabi. Lors des manifestations de cette époque-là, des affrontements ont éclaté entre les manifestants et forces de sécurité de l'ambassade américaine, obligeant les États-Unis à expédier davantage de troupes au Moyen-Orient. Par ailleurs, un convoi logistique américain a été attaqué par un obus RPG à Ziraj, près du champ pétrolifère d'Al-Sabah. Suite à l'attaque, le groupe de résistance irakien Sabah al-Kahf a publié une vidéo dans laquelle il a revendiqué l'opération. Selon la vidéo diffusée par le groupe, au moins 4 des 7 véhicules transportant du matériel logistique militaire américain ont été touchés. Il s'agit de la 255e attaque par l'axe de la résistance irakienne contre des convois logistiques américains depuis le début de cette année 2021. Aussi, 23 de ces attaques ont été menées contre des convois et des positions militaires des troupes américaines dans la province de Ziraj. En Syrie, une base militaire américaine située dans la province syrienne de Hasaka au nord-est a été frappée par plusieurs obus de mortier. Une base militaire américaine située dans la ville d'Al-Shadadi, dans le gouvernorat de Hasaka, a été frappée avec des obus de mortier, a-t-on appris des sources d'information syriennes. Les sirènes d'alerte ont retenti à la base et le niveau de préparation au combat y a été élevé. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque mortier contre la base américaine. Selon une autre dépêche, deux roquettes ont touché ce vendredi 31 décembre le puits de pétrole de Conoco à Deir ez-Zor, près de laquelle se trouve une base militaire américaine. Sabah News a affirmé que la base avait été visée par 4 roquettes de 107 mm. Rappelons qu'il y a 2 semaines, la base des forces américaines dans la zone du champ pétrolier d'Al-Omar, dans la périphérie de Deir ez-Zor, avait été touchée par un missile. Des sources locales à proximité de la base ont confirmé que 4 explosions successives avaient été entendues et que des colonnes de fumée se sont élevées à proximité du champ pétrolier d'Al-Omar, qui est utilisé par les forces de la coalition américaine comme base illégale à l'est des Deir ez-Zor, en Syrie. La police soudanaise a confirmé vendredi que 4 manifestants avaient été tués et des centaines de personnes blessées lors des manifestations de masse réclamant un régime civil la veille dans la capitale Khartoum et ses régions voisines. 4 manifestants ont été tués tandis que 297 autres ainsi que 49 policiers ont été blessés à Omdurman, a déclaré la police soudanaise dans un communiqué. Omdurman est la ville la plus peuplée du Soudan, située sur la rive occidentale du Nil, en face de la capitale Khartoum. La police a accusé les manifestants d'avoir commis des actes de sabotage et d'avoir attaqué les forces de l'ordre, causant des pertes humaines et des dommages aux propriétés publiques et privées. Soulignant le caractère pacifique de la situation, la police soudanaise a appelé à une coordination avec les leaders de la manifestation pour démasquer ceux qui cherchent à créer un fossé entre la police et le peuple. Jeudi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Khartoum et d'autres villes lors de la 11e manifestation de masse depuis le 25 octobre, date à laquelle l'armée a soudainement pris le contrôle du pays. Le Soudan traverse une crise politique depuis que le commandant général des forces armées Abdel Fattah al-Burhan a déclaré l'état d'urgence le 25 octobre et dissout le Conseil souverain et le gouvernement. Le 21 novembre, Abdel Fattah al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui avait été démis de ses fonctions, ont signé une déclaration politique prévoyant le rétablissement de M. Hamdok dans ses fonctions de Premier ministre, mais cet accord n'a pas encore réussi à calmer la rue. Les manifestations de rue ont également été alimentées par la hausse des prix de la nourriture, des gaz de cuisson et des produits de première nécessité dans le pays. Les enfants en situation de conflit sont victimes d'une augmentation des violations graves, déplore l'UNICEF. Les conflits armés, les violences intercommunautaires et l'insécurité ont continué de faire des milliers de victimes parmi les enfants tout au long de l'année 2021, a déclaré vendredi 31 décembre 2021 le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF. Selon Henrietta Fore, directrice exécutive de l'UNICEF, les parties en conflit continuent de faire preuve d'un mépris terrible pour les droits de l'enfant, année par année. Des enfants souffrent et des enfants meurent à cause de cette insensibilité. Tous les efforts doivent être faits pour protéger ces enfants contre tout danger, a-t-elle ajouté. En 2020, l'ONU a vérifié 26 425 violations graves contre des enfants, mais les données ne sont pas encore disponibles pour cette année. Toutefois, le nombre de cas confirmés d'enlèvement et de violences sexuelles a augmenté à un rythme alarmant au cours des trois premiers mois de 2021, de plus de 50% et 10% respectivement. La Somalie a enregistré le plus grand nombre d'enlèvements vérifiés, suivi de la République démocratique du Congo et des pays du bassin du lac Tchad. Tchad, Nigeria, Cameroun et Niger, les cas vérifiés de violences sexuelles étant les plus élevés en RDC, en Somalie et en République centrafricaine. L'Afghanistan compte le plus grand nombre de victimes vérifiées chez les enfants depuis 2005. À l'échelle mondiale, le pays représente 27% de tous les enfants victimes vérifiées avec plus de 28 500 incidents. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord rassemblent quant à eux le plus grand nombre d'attaques confirmées contre des écoles et des hôpitaux avec 22 au cours des 6 premiers mois de cette année. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Premier chemin de fer de la résistance. Plus l'Iran, l'Irak et la Syrie approfondissent leurs relations et coopération, plus Washington et son allié israélien sont déçus et dépités de voir leur complot visant à les diviser tomber à l'eau. À cet égard, l'Iran et l'Irak ont signé un accord faisant état du début de la reprise de la construction d'une liaison ferroviaire qui vise à relier l'Iran et la Syrie via Bassora en Irak. Au cours d'une visite de 2 jours à Bagdad, le ministre iranien des routes et du développement urbain, Rostam Rassemi, a rencontré le ministre irakien des transports ainsi que le premier ministre et le président du pays. Lors de la rencontre, les deux parties ont signé un accord faisant état du début de la construction d'une liaison ferroviaire qui débutera le mois prochain. Ce projet vise à relier l'Iran et la Syrie via Bassora en Irak. La construction de la liaison ferroviaire Iran-Irak-Syrie avait été décidée en 2010 dans le cadre du marché commun régional, mais elle n'a pu voir le jour après la guerre en Syrie. Ce projet ferroviaire a pour objectif d'ouvrir de nouvelles routes commerciales et de consolider les liens entre ces trois pays. Ce long chemin de fer traversera tous les trois pays. En Iran, cette nouvelle ligne ferroviaire va relier la capitale iranienne Téhéran au sud du pays en passant par les trois villes iraniennes Abadan, Khorramshahr et Salamche. Puis elle reliera l'Irak à la Syrie en passant par Bassora, Bagdad et Fallujah. L'établissement de la ligne ferroviaire de 32 km reliant Bassora à Bagdad pourrait représenter un grand changement pour l'Iran et l'Irak. L'Irak dispose de plusieurs lignes de chemin de fer, dont la voie ferrée Bagdad-Bassora-Mossoul, qui relie la Turquie à l'Europe via Rabia, située à la frontière avec la Syrie. Cette voie ferrée, qui reliera Salamche en Iran à Bassora en Irak, ouvrira la voie aux pays de la résistance, à savoir l'Iran et l'Irak, à l'Europe via la Turquie. Cet itinéraire alternatif pourrait contourner d'éventuels problèmes sécuritaires liés à la présence de l'US Navy au détroit d'Hormuz. L'autre voie ferrée, et qui est encore plus importante, reliera l'Irak à la Syrie via Abu Kamal en Syrie et Al-Raïm en Irak. Au nord de Bagdad, en passant par les villes irakiennes de Fallujah, Ramadi et Hadissa, cette ligne de chemin de fer continue son itinéraire jusqu'à la zone frontalière d'Al-Raïm, située à la frontière avec la Syrie, dont une sous-ligne de 144 km relie Al-Raïm au complexe industriel irakien des phosphates, situé dans la région frontalière d'Al-Aqashat. Cette ligne de chemin de fer longue de 375 km va relier l'Irak aux ports arabes de la côte méditerranéenne en Syrie et au Liban. Cette ligne de chemin de fer en Syrie va se diviser en deux voies. Après avoir traversé la ville d'Abu Kamal, la première voie parcourt les villes syriennes, à savoir Alep, Idlib et enfin Latakia. La deuxième voie continuera son itinéraire, traversant les villes d'Homs et Damas, arriveront au Liban pour aboutir à la ville d'Al-Khalil en Cisjordanie occupée. Ce qui compte le plus est la mise en service de cette voie ferrée reliant l'Iran et l'Irak à la mer Méditerranée, et il est certain que l'aboutissement d'un tel projet constituera une grande victoire politique, économique et militaire pour l'Iran et les pays de l'axe de la résistance. Soulignant l'importance de la reprise du transport terrestre entre l'Irak et la Syrie, Ali Hamoud, le ministérien du transport, avait déclaré il y a 3 ans que la ligne ferroviaire irako-syrienne faisait partie des projets portant sur la reconstruction du pays, dont les infrastructures ont été largement endommagées suite à 8 années de guerre. Quelques 18 000 kilomètres de chemin de fer ont été touchés au cours de la guerre, soit près de 90% de la liaison ferroviaire de la Syrie avec les pays voisins. Selon le ministre syrien, cette nouvelle ligne ferroviaire s'inscrit dans le cadre du développement des réseaux ferroviaires en Asie centrale, lesquels relient la Syrie à la Chine et à la Russie. La partie syrienne se chargera de la construction de 32 km et la partie irakienne prendra en charge le reste de la construction de la voie ferroviaire assurant la liaison entre Bagdad et Karbala, ville irakienne, au territoire syrien. Cette voie ferrée facilite le déplacement des touristes et l'échange de marchandises entre l'Iran, l'Irak et la Syrie, a détaillé le ministre syrien du Transport. Une fois arrivé à la capitale syrienne Damas, la voie ferrée se divise en 3 voies. Le premier continue son itinéraire vers la ville d'Al-Khalil en Cisjordanie occupée, le second vers Beyrouth, la capitale libanaise, et le troisième vers Tripoli, d'où l'importance stratégique de cette ligne de chemin de fer. L'importance stratégique de ce projet est si grande qu'il pourrait conduire également à la relance de la ligne ferroviaire dite Bagdad-Berlin qui a été proposée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder ce retrait américain et de l'Irak, de la présence américaine militaire américaine en Irak est vivement contestée tant au niveau des dirigeants et surtout au niveau de la population. Il y a eu une loi qui avait été votée après de l'assassinat du général martyr Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique lors d'un attentat terroriste effectué par les États-Unis à l'aéroport de Bagdad. Et suite à cet assassinat, il y a eu cette loi du Parlement irakien qui insiste sur le retrait des troupes militaires américaines de l'Irak. De ces derniers temps, il a été annoncé que les troupes militaires américaines, les troupes de combat US vont se retirer de l'Irak, mais il y avait en fait cette exigence du côté de la résistance. La résistance, c'est qui insiste sur le fait que, en fait, le dernier soldat militaire américain doit quitter le territoire irakien. Il ne s'agit pas de changer du nom de mission des troupes américaines en Irak. La résistance insiste sur le retrait définitif, une fois pour toutes, des troupes militaires américaines de l'Irak. Il y a de l'autre côté, en fait, ce qui se passe en territoire des Syriens. La Syrie aussi insiste sur le retrait des militaires américains. Cette présence militaire américaine en territoire syrien est vivement contestée, tant au niveau du pouvoir syrien qu'au niveau de la population. nations. Et c'est dans un tel contexte que le régime israélien a en fait mené ces derniers temps plusieurs agressions contre le territoire syrien, ce qui montre que voilà, les Israéliens sont en train d'effectuer, si vous voulez, des agissements désespérés. Pourquoi ? Parce que en fait, leur politique anti-syrienne, c'est désormais un constat d'échec. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste français des questions internationales. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Et Ahmed, il y a...
Merci beaucoup. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste français spécialiste des questions internationales par Skype. Il s'agit de Maître Elie Atem. Maître Atem, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Merci de votre invitation et mes salutations à M. Dortiguier et à tous vos téléspectateurs.
Merci beaucoup. Maître Atem, je viens de lancer le sujet. Comment expliquez-vous ce qui se passe actuellement en Irak, au niveau des dirigeants et de la population, également en Syrie, en ce qui concerne l'insistance sur ce retrait des troupes militaires américaines de l'Irak et également de la Syrie, s'il vous plaît?
Alors, en ce qui concerne les troupes américaines, en particulier en Irak et en Syrie, par rapport à d'autres endroits du Moyen-Orient, il s'agit d'une occupation manu militari de ces deux États. Nous savons que l'agression américaine qui a eu lieu en 2003 contre l'Irak constitue un acte d'occupation parce qu'elle est contraire aux normes internationales avec cette notion de guerre préventive. Et il n'y avait pas de motif pour cette intervention-là. Deuxièmement, en Syrie, cette intervention militaire américaine n'avait pas été faite à la demande du gouvernement officiel de cet État de la Syrie, comme c'était par exemple l'appel qui a été fait par le gouvernement syrien d'abord à l'Iran, ensuite à la Russie, pour l'aider à réduire la force et à frapper les terroristes qui faisaient tout pour déstabiliser l'État syrien, le front al-Nusra d'abord, mais ensuite Daesh, et toutes ces forces de mercenaires qui venaient de pays de l'Est, qui avaient déjà participé à l'époque de la guerre en Afghanistan, c'est ce qu'on appelait les Moujahidines, et qui avaient combattu en Bosnie et ailleurs, et la plupart sont venus d'ailleurs s'attaquer à la Syrie. Donc ce retrait américain ne peut faire que respecter donc, le droit international. Mais ce qu'il faut voir et ce qu'il faut dire, il y a des tractations politiques, et malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, différentes interventions américaines sur la scène internationale à la fin de la bipolarisation démontrent un irrespect total du droit international public par les États-Unis et la transformation de la scène politique internationale en une véritable jungle contre laquelle il s'est déployé Boutros Ghali pour lutter. Mais malheureusement, les Nations Unies se sont retrouvées de plus en plus sous l'hégémonie américaine, surtout depuis la fin du mandat de Boutros Ghali. Alors, c'est ce qui explique aujourd'hui cette situation aussi bien en Syrie et en Irak. Et il ne faut pas oublier, il faut le rappeler, que les troupes terroristes de Daesh ont été créées, renforcées, aidées aussi bien par les services américains que les services israéliens. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les Américains, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président Donald Trump qui l'avait affirmé durant sa campagne présidentielle lors de son premier mandat. Et Mme Hillary Clinton l'avait même aussi reconnu dans son livre « Hard Choices ».
Monsieur de Dortiguier, vous venez d'entendre Maître Atem, selon Maître à thème, en fait, de cette présence militaire américaine en Irak et également en Syrie. C'est une occupation manu militari, c'est un acte d'agression, c'est une violation de la souveraineté de l'Irak et de la Syrie. Et c'est en se référant, si vous voulez, de ce point ô combien important que la résistance irakienne insiste sur le fait que les troupes de combat américains doivent quitter l'Irak définitivement avant le 31 décembre, sinon la résistance passera, si vous voulez, à l'action pour, si vous voulez, obliger les militaires américains de quitter l'Irak. Monsieur d'Ortiguier, en fait, c'est un acte d'agression, c'est une violation de la souveraineté de l'Irak, et la résistance irakienne est dans son rôle, n'est-ce pas, monsieur d'Ortiguier ?
En effet, elle est tout à fait conforme à la loi et à la loi irakienne, puisqu'il s'agit d'une décision parlementaire. L'État irakien et le Parlement irakien ont évidemment, c'est une évidence, évidemment le droit de proclamer, bien sûr, l'illégalité d'une agression, car il ne s'agit que d'une agression. N'oublions pas que les Américains ne sont pas venus à l'appel du gouvernement ou d'un gouvernement irakien. Ils ont été, c'est un acte de violence pure et simple, voyez, qui a été bien sûr moralement acceptable ou accepté en Occident, parce que on a fait valoir que les États-Unis étaient eux-mêmes victimes d'un certain terrorisme, etc. Oui, en effet, on peut discuter bien sûr du fond des choses, mais l'apparence était, on pouvait donner une apparence à l'agression américaine, mais il s'agit cependant toujours d'un fait d'agression. En tout cas, il n'y a jamais eu d'appel, que ce soit du gouvernement syrien, du gouvernement irakien, à des forces américaines. Comme par exemple, il y a eu un appel de la Syrie, par exemple à l'aide russe, à cause de la base de Tartous, qui était initiale, bien sûr. Et là, il s'agit bien sûr d'une alliance, disons. Or, il ne s'agit aucunement, il n'y avait aucunement d'alliance, quelque alliance que ce soit, entre le gouvernement irakien et le gouvernement américain, ni même la présence de je ne sais quel gouvernement irakien en exil qui aurait pu, par exemple, sous prétexte de démocratie, dire qu'il était légitime et appeler les Américains. Tout ceci, c'est un des exemples les plus extraordinaires d'arbitraire dans les relations internationales. Maintenant, la situation en Irak est celle-ci. Les Américains, bien sûr, nous en sommes sûrs, vont au pire, naturellement, à cette nécessité de partir. Mais est-ce qu'ils ne vont pas modifier leur présence ou une partie de leur présence sous prétexte de coopération militaire ? Ça, il s'agit là d'une intrigue, bien sûr. Je ne crois pas que le Parlement, en tout cas irakien, accepterait même une deuxième forme de présence américaine.
Maître Hatem, vous l'avez dit de tout à l'heure, M. d'Ortiguier également vient d'exprimer de son avis sur ce sujet. Je viens de le dire tout à l'heure que voilà, les États-Unis ont déclaré de vouloir en fait de quitter l'Irak avant le 31 décembre. Autrement dit, les troupes de combat américaines, selon la version officielle de Washington, vont en fait se retirer de l'Irak avant le 31 décembre. Mais il y a eu en fait ces informations comme quoi il va y avoir en fait la présence des militaires américains, mais ils vont agir dans le cadre, si vous voulez, de la formation des militaires américains, des militaires irakiens, pour en fait donner des conseils, si vous voulez, aux forces irakiennes, autrement dit, agir en qualité de conseiller militaire. Mais la résistance irakienne insiste sur le fait qu'il n'est pas question de tolérer la présence militaire américaine en territoire irakien, que ce soit, si vous voulez, au nom des conseillers militaires et autres. Maître Hatem, vous êtes juriste international. Si les militaires américains refusent de quitter l'Irak avant le 31 décembre, la résistance irakienne, juridiquement parlant, peut-elle recourir au droit de la légitime défense contre les troupes militaires américaines ?
Je ne parlerai pas de la légitime défense, parce que pour parler de la légitime défense, il faut une attaque, donc une agression et une riposte qui soit proportionnée à l'attaque. Nous sommes dans un autre cadre qui est prévu par la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le principe de l'autodétermination, donc la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et le principe d'une autorisation particulière, c'est une exception au principe du non-recours à la violence dans les relations internationales en ce qui concerne les mouvements de résistance nationale. Vous vous souvenez, la France qui a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement de résistance nationale français qui a été mené contre l'occupant nazi a été considéré comme ayant effectué des actes qui sont conformes. Certes, ce n'était pas la Charte des Nations Unies, mais c'était la SDN, mais la Charte des Nations Unies a repris des principes de la Charte de la SDN, et nous avons vu un élargissement aussi de cette notion de la libération nationale. C'était la lutte également contre le colonialisme, contre la colonisation donc, de certains pays, qui est donc l'usage de la force dans un cadre particulier qui est celui de la résistance nationale pour sauvegarder la souveraineté et l'indépendance. Ça, c'est d'un point de vue juridique. Maintenant, comme nous le savons, en plus, et j'insiste là-dessus, cette intervention américaine en Irak n'a pas eu lieu conformément aux règles du droit international, c'est-à-dire en passant, en demandant une autorisation, autrement dit une résolution du Conseil de sécurité qui lui doit veiller sur la paix et la sécurité internationale. C'est une intervention unanime qui a été, comme vous le savez, également condamnée à l'époque par la France. Donc aujourd'hui, un mouvement de résistance nationale de la part des Irakiens pour libérer leur pays de l'occupation étrangère est tout à fait, je dirais, licite d'un point de vue international. Dernière chose, il faut rappeler quel était l'objectif des Américains dans cette intervention. Il y avait deux objectifs. Le premier, c'est déstabiliser les institutions et l'État irakien. Nous avons vu de quelle manière ça a été déstabilisé, comme ils ont réussi également à déstabiliser d'autres pays arabes, soit par des révolutions de l'intérieur, et si ces révolutions faites de l'intérieur par l'intermédiaire de services, d'agents et de l'argent, et j'en passe, le marché ne fonctionnait pas, ils faisaient appel à une intervention extérieure. C'est ce qui s'est passé en Irak pour la déstabilisation du pays, et deuxièmement, et surtout ce point est assez important, pour créer des conflits communautaires, en particulier entre les sunnites et les chiites, pour répondre à un projet politique vieux depuis, je dirais, le début même du XXe siècle, c'est créer des entités ethniques ou des entités communautaires ou confessionnelles, à l'exemple de l'ethnocratie israélienne, pour pouvoir s'entretuer pendant des décennies. Et de ce fait-là, que l'État Israël puisse avoir une certaine légitimité en tant qu'ethnocratie, à l'instar donc des autres pays qui vont émerger. Voilà les objectifs des Américains qui, malheureusement, ont réussi à semer la zizanie dans la population irakienne, comme ils l'ont fait d'ailleurs partout dans les pays arabes.
Monsieur Dortillier, d'admettre à thème s'agissant de la et résistance nationale irakienne évoque de ce principe de la liberté des nations de disposer d'eux-mêmes. Maître Atem estime que voilà, c'est dans le cadre de ce droit que la résistance nationale en Irak peut entrer en action pour sauvegarder la souveraineté du pays, pour libérer l'Irak de l'occupation étrangère, en l'occurrence américaine. Est-ce votre avis également ?
Bien effet, je me permets... Je crois que de nombreux auditeurs sont avec moi pour relever, disons, l'excellence de ce que dit Maître Atem sur les mouvements, disons, de déstabilisation, d'opposition de communautés, entre sunnites et chiites, par exemple. Tout ceci vient, bien sûr, d'études, on pourrait dire psychologiques, américaines, de stratégies.
Monsieur Dertiguier, il y avait... Est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends.
Je vous en prie, il y avait une interférence dans vos paroles. Je vous en prie, je vous remercie de continuer. Notre liaison avec Toulouse est mauvaise. Et malheureusement, je reviens vers vous, Maître Hatem, pour poursuivre notre débat. Maître Hatem, je viens de le dire tout à l'heure en début de notre émission, c'est dans un tel contexte que du côté israélien, il y avait cette multiplication ces derniers temps des agressions israéliennes contre le territoire syrien, le régime israélien qui a agressé et qui a mené des agressions contre le port de Latakia ou de son présent également les militaires russes, monsieur de Hatem. S'agit-il en fait d'un message envoyé par le régime israélien à l'endroit de la Russie de Vladimir Poutine? S'agit-il des agissements désespérés du côté israélien? Parce que, en fait, comme je viens de vous le dire, selon de nombreuses analyses, la politique anti-israélienne, anti-syrienne du régime israélien, c'est désormais un constat d'échec, Maître Hatem.
Effectivement, tout d'abord, si je me permets de vous rectifier une expression quand on vous avait parlé d'une agression israélienne à l'encontre de la Syrie. Il faut rappeler, pour parler d'agression, il faut qu'un État puisse appartenir, je dirais, à la société internationale, respecter en général le droit international et enfreindre dans une situation ou dans une autre les règles. Et dans ce cas-là, on peut parler d'agression. Or, l'entité sioniste n'a jamais respecté le droit international. Il y a une pléthore de résolutions, aussi bien du Conseil de sécurité des Nations Unies que de l'Assemblée générale des Nations Unies, que cette entité, qui s'appelait un État, n'a jamais respecté. Aujourd'hui, Israël commet des actes de terrorisme. Nous avons vu comment est-ce qu'elle a fait en Iran, en opérant sur un territoire qui n'a jamais d'ailleurs touché la sécurité intérieure d'Israël, et elle a commis des actes de terrorisme en assassinant donc des personnes, en commettant en fait des explosions. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est qu'aujourd'hui la Syrie, les institutions syriennes qui ont été retestées et puis qui ont profité de l'intervention à la demande du gouvernement officiel de l'Iran et surtout et après de la Russie pour finir avec ces organisations terroristes, il faut le dire, telles que le Front al-Nusra, qui n'est autre que la branche d'Al-Qaïda en Syrie, ou bien Daesh, cette fameuse organisation qui, comme je le disais tout à l'heure, était stipendiée par de l'argent de l'extérieur et que, comme par hasard, n'a jamais agressé l'État israélien, sauf une fois, ou plutôt c'est dans le sens contraire, où Israël avait fait un bombardement au Golan et elle a failli toucher, ou elle a touché à l'époque une position de Daesh, elle s'est tout de suite excusée après. Donc on voit très bien que l'objectif d'Israël, c'était de renforcer ces mouvements terroristes, de déstabiliser l'État syrien. Aujourd'hui, cet acte terroriste qui a été fait par Israël est doublement d'une chose. Premièrement, ils accusent soi-disant la Syrie de recevoir des munitions de la part d'un État allié qui est l'Iran. Cela n'a pas été prouvé déjà. Deuxièmement, elle ne s'attaque pas simplement au port, mais également à une zone touristique pour détruire l'infrastructure, car encore une fois, l'objectif de l'entité sioniste est de détruire l'ensemble des pays environnants pour les faire régresser économiquement, financièrement, culturellement, et j'en passe. Deuxièmement, il y a un autre message à la Russie, car l'endroit où cet acte terroriste a eu lieu était à 20 km de la base russe. Maintenant, les Russes sont dans une grande difficulté parce que, comme vous le savez, ils sont en train d'ailleurs de se préparer pour régler le problème avec l'Ukraine, où déjà leur armée est en train, en fait, de s'entraîner, d'une part, et puis d'autre part, de préparer une éventuelle attaque. Alors, la Russie aurait pu intercepter ou répondre à cet acte terroriste de la part de l'entité israélienne, l'entité sioniste, mais si elle l'aurait fait, ça aurait été une sorte de casus belli entre la Russie et Israël, et ce que la Russie voulait éviter.
Merci infiniment, Maître Atem, pour cette rectification. Merci beaucoup pour cette analyse, comme toujours d'ailleurs, pertinente et complète. Vous l'avez dit, Maître Atem, il s'agit en fait, s'agissant de ces agressions et ces frappes israéliennes contre le territoire syrien, selon Maître Atem, il s'agit des actes de terrorisme, parce que le régime israélien, son objectif a été toujours d'appuyer les groupes terroristes opérant en territoire syrien. Merci beaucoup, Maître Atem, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont à vous également, Pierre Dortillier, philosophe français, spécialiste des questions internationales, d'avoir été en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Les menaces US n'ont aucun effet sur la volonté des nations indépendantes et prises de liberté, a souligné le président iranien Ebrahim Raisi. Le président iranien Ebrahim Raisi a souligné lors d'une conversation téléphonique avec son homologue Nicaragua Guyane que les sanctions et menaces américaines n'avaient aucun effet sur la volonté des nations indépendantes et prises de liberté du monde. Soulignant l'importance de renforcer et d'approfondir les relations entre les deux pays, il a mis l'accent sur de vastes potentiels pour l'Iran et le Nicaragua dans divers domaines politiques, économiques et les secteurs sociaux. Il revient aux responsables politiques et économiques des deux pays d'activer le potentiel au profit du progrès et du bien-être des deux nations, a-t-il souligné encore. Soulignant que les sanctions et les menaces américaines n'affectent pas la volonté des nations indépendantes et prises de liberté du monde, le président Raisi a ajouté « Le système de domination ne peut pas imposer sa volonté à la République islamique d'Iran ni au Nicaragua, car les deux pays comptent sur les votes et le soutien de leur peuple et ont toujours su résister et à tenir tête aux velléités des hégémonies et des maximalistes. » L'ayatollah Raisi a poursuivi « Malgré les obstacles et les problèmes, la nation iranienne n'a pas arrêté et n'arrêtera pas ses progrès et nous sommes convaincus que le Venezuela saura surmonter la menace et les sanctions américaines car aujourd'hui les États-Unis sont en déclin et s'affaiblissent de jour en jour. » Toujours lors de cet entretien téléphonique, le président nicaraguain Daniel Ortega a pour sa part appelé au renforcement des relations entre les deux nations et les deux pays a déclaré « Nous sommes convaincus que l'Iran et le Nicaragua, ainsi que d'autres pays dans le monde qui luttent contre l'impérialisme, saura foncer et réussir. »
Daniel Ortega a ajouté que son pays soutient la République islamique d'Iran dans près de toutes les arènes internationales. Nous soutenons la souveraineté du peuple iranien et le droit fondamental et légitime du peuple iranien dans les récentes négociations de Vienne, a-t-il conclu. Iran, lancement réussi de 3 appareils de recherche spatiale par Simorgh. Pour la première fois, la porte satellite Simorgh a lancé ce jeudi simultanément 3 appareils de recherche à une altitude de 470 km et à une vitesse de 7350 mètres par seconde, annonce le porte-parole spatial du ministère iranien de la Défense, Seyed Ahmad Hosseini. Dans cette mission de recherche spatiale, pour la première fois, 3 appareils de recherche ont été lancés simultanément à une altitude de 470 km et à une vitesse de 7350 mètres par seconde, a déclaré jeudi Ahmad Hosseini. Il a déclaré que les composants du centre spatial fonctionnaient parfaitement et que les étapes du lancement de la fusée se sont déroulées conformément au plan. Enfin, les objectifs de recherche de la mission ont été atteints, a-t-il conclu. Les États-Unis et Israël participent au raid contre Sana'a. Nous sommes dans la phase finale de la guerre, selon la résistance yéménite. Les États-Unis et Israël participent au bombardement de Sana'a et d'autres provinces yéménites aux côtés de la coalition d'agression menée par l'Arabie saoudite a accusé l'organisation yéménite d'Ansar Allah, selon laquelle la guerre au Yémen est entrée dans sa phase finale. Des avions américains et israéliens font part au raid contre Sana'a et les autres gouvernorats, a déclaré le membre du bureau politique d'Ansar Allah, Ali Al-Houm. Selon lui, l'escalade de l'agression durant cette phase est dictée par les directives et les ingérences américaines et israéliennes. Nous ne resterons pas les bras croisés face à cette escalade criminelle. La riposte est légitime et certaine, a-t-il insisté, assurant qu'il y aura des surprises dans les jours prochains. Les raids aériens contre Sana'a et d'autres provinces yéménites, qui sont le théâtre de combats arrêtés entre les forces de Sana'a et celles de Hadi, ne connaissent pas de répit ces dernières semaines, alors que la résistance yéménite est sur le point de prendre Marib et a conquis en fait quelques 1200 km du gouvernorat Al-Jawf à l'ouest de Sana'a. En fait, les opérations de la résistance se poursuivent pour obtenir la victoire définitive. Pékin menace les États-Unis d'un prix insupportable. Les États-Unis risquent de devoir payer un prix insupportable pour leur soutien à Taïwan, a déclaré ce jeudi 30 décembre le ministre chinois des Affaires étrangères, avertissant l'île qu'elle faisait face à une situation extrêmement dangereuse. Dans un entretien à la télévision nationale et à l'agence Chine Nouvelle, Wang Yi a accusé Washington d'encourager l'indépendance de Taïwan, l'île que Pékin considère comme l'une de ses provinces, bien qu'elle soit gouvernée séparément depuis 1949. Cela va non seulement placer Taïwan dans une situation extrêmement dangereuse, mais aussi mettre les États-Unis devant un prix prix insupportable, a-t-il prévenu. Pékin n'a jamais écarté l'hypothèse d'un recours à la force pour établir sa souveraineté sur Taïwan et a multiplié ces derniers mois les incursions aériennes dans la zone d'identification de défense de l'île. Washington a de son côté poursuivi son soutien à l'armement de Taipei et a envoyé de hauts responsables sur place aux grandes dames de Pékin qui interdit tout contact officiel entre l'île et des gouvernements avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. Le ministre chinois des Affaires étrangères a accusé, sans les nommer, les États-Unis d'utiliser les droits de l'homme et la démocratie pour calomnier et encercler la Chine et de nombreux pays en développement. Les États-Unis provoquent constamment de nouveaux incidents afin de heurter les relations entre les deux pays, a-t-il dénoncé encore. La Russie pourrait déployer des missiles Zircon en Syrie comme arme de dissuasion. Face à l'installation de systèmes de frappe de l'OTAN en Europe, le chef de la commission parlementaire russe pour la défense propose de déployer des missiles hypersoniques Zircon à bord de navires en Syrie. Des navires russes équipés de missiles hypersoniques Zircon pourraient être déployés au port syrien de Tartous comme dispositif de dissuasion, a estimé Andrei Kartapolov, chef de la commission de la Douma, chambre basse du Parlement russe pour la défense. Nous avons une base en Méditerranée et celle de Hemaimim. La base de Tartous abrite des systèmes de missiles côtiers et pourrait héberger également des navires dotés de missiles hypersoniques Zircon qui couvriront l'ensemble de la mer Méditerranée, a-t-il indiqué lors d'une émission sur la chaîne YouTube. À son avis, les mesures militaires ne signifieront pas forcément une guerre. Ce terme désigne aussi les efforts visant à créer des menaces imminentes pour l'adversaire qui le feront renoncer à poursuivre ses actions. Eh bien, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone.